Bonjour Anne-Marie Aubin.
Bonjour Hélène.
Anne-Marie, vous avez lu un livre que vous avez beaucoup aimé qui s'intitule Vie parallèle.
Oui, un roman de Benoît Côté, auteur qui est né à Saint-Hyacinthe en 1981, donc jeune écrivain, mais qui est étonnamment finalement titulaire d'un doctorat en musique, qui a fait beaucoup de musique pour des films, des représentations théâtrales, mais il est aussi auteur, puis il a même été sur la scène récemment. Il a joué dans une pièce qui s'appelait La Rondelet. Il faisait musique et il intervenait à quelques moments
Ah
dans la
oui,
pièce.
ben la pièce qui est toujours en tournée là, je vais la
Oui,
voir, je pense à
exact.
l'automne prochain.
Oui, puis qui parle justement de problèmes des producteurs de lait. Puis lui, il vient d'un milieu agricole. En fait, je dis qu'il est né à Saint-Hyacinthe, mais il était dans un petit village à côté qui s'appelle Sainte-Rosalie. Ses parents avaient une ferme. Donc, il est tout à fait conscient. Puis maintenant, il est un peu comme l'héritier de cette entreprise avec son frère. Et donc, dans un premier temps, il a écrit un essai qui s'appelle Proposition de clarté, qui s'est vu par hasard être finaliste du prix gouverneur général. Tu sais, quand c'est ton premier livre, c'est quand même étonnant.
Oui.
Ça l'a sans doute stimulé. Puis là, ensuite, il a écrit Récolter la tempête chez Triptyque en 2018, que j'ai adoré. C'est un roman qui racontait son adolescence dans son petit village, justement. C'était très, très local. Et c'était la fin du millénaire. C'était aussi l'échec référendaire. Et pour nous, la crise du verglas, qui était très intense dans notre région à ce moment-là. Et lui, ben, il était rebelle, puis il critique à peu près tout, les classes sociales, tout ce qu'il voit autour de lui. Puis il y en a un que j'ai pas lu ensuite, qui s'appelle Vernissage, qui est paru chez Triptyque, et Vie parallèle, c'est son troisième roman. Et j'ai adoré ça parce que c'est on appelle ça une uchronie, c'est-à-dire c'est comme un roman utopique, mais comme c'est inscrit dans le temps, donc c'est comme un amalgame de uchronie, utopie, chronologie. Puis ça raconte finalement l'histoire réelle, mais en mettant des éléments nouveaux, puisqu'il y a eu quelque chose de différent dans le fil de l'histoire. Et dans ce cas-ci, ben, c'est que finalement, il s'imagine que le Québec est devenu indépendant à la suite du référendum de 95. C'est le sujet du livre.
Oui.
Je vous ai pas perdu, non?
Non,
J'entends des
non,
drôles de sons. D'accord. Alors, son personnage, par hasard, s'appelle Benoît Côté. Et puis, ben, il y a une quarantaine d'années, il est marié, il a deux fillettes, il est banquier et il travaille auprès de clients, surtout dans la Russie. Ce qui le passionne, c'est l'argent. Mais il passe à côté de la vie complètement. Et le récit, pour montrer comment c'est fictif, ça commence en novembre 2018 avec des funérailles nationales pour Dédé Fortin qui vient de mourir à 56 ans. Alors que dans la réalité, il est mort il y a longtemps, là,
ben
mais bon.
ouais, il n'y avait
Et
même pas
là,
40 ans.
oui, c'est ça. Et là, ben, il y a des gens qui rencontrent, entre autres par hasard, un ami du temps de l'école qui s'appelle Mathieu Rancourt, qui travaille à la Société historique du Québec et qui lui dit, écoute, dans 2 ans, en 2020, ça va faire 25 ans que le référendum de 95 a eu lieu. On aimerait ça te donner un contrat. Et je le cite, on aimerait ça que tu écrives un texte où tu te demandes ce qui serait arrivé au Québec si le non l'avait emporté. Alors lui, il dit, ben, je peux pas faire ça, j'ai pas le temps, je suis trop occupé, mais en même temps, ça le talonne. Puis là, il dit, comment imaginer que, et je cite, une large majorité de francophones auraient pu accepter que la victoire leur soit arrachée par une petite minorité d'anglos et d'immigrants. En plus, on était beaucoup plus pauvres à l'époque, on avait beaucoup moins à perdre. Non, je vous le dis, ça aurait été une guerre civile. Bon, alors, c'est amusant de voir comment lui, c'est la vraie histoire, mais fait en sorte que son personnage joue à être celui qui l'imagine. Alors, c'est comme une espèce de mise en abîme très amusante. Et il va finir par accepter. Puis ça le ramène en 1995, alors qu'il était un jeune, il avait une vingtaine d'années, et il est avec une bande de gens en commun, un peu comme des hippies. Et ça, c'est la partie un peu moins intéressante parce qu'il va nous raconter comment il a vécu cette époque-là.
En
Mais
95, il avait 14 ans.
c'est ça. Alors, il était
Il est
jeune,
loin
il devait
d'avoir
être
20
vieux.
ans, là, c'est un adolescent.
Mais oui, mais ça va continuer, là. C'est qu'après, il fait des études, puis là, il rencontre des jeunes, puis il tombe amoureux d'une jeune fille, puis il va faire des gestes politiques. Enfin, bon. Alors,
OK,
ça
vous
se
parlez du
termine à...
personnage, là.
Oui, là, dans
Le
l'histoire.
personnage qui s'appelle Benoît Côté.
Oui, c'est ça qui fait que c'est mêlant. Mais en même temps, quand il raconte tout ça, ça nous présente une époque qui n'existe pas. Tu sais, c'est comme si c'est les débuts après le référendum. qui aurait été pour le oui. Donc, avec une étudiante, il va se mettre à faire des recherches, et ça, c'est la partie vraiment passionnante. Il va rencontrer Jacques Parizeau, Lise Bissonnette, il va rencontrer Richard Desjardins, Gérard Depardieu, qui s'est acheté des vignes en Estrie. Bon, et chacun donne son point de vue sur qu'est-ce que ça aurait pu être le Québec si on n'avait pas gagné le référendum de 95. Alors ça, c'est vraiment amusant.
Oui, du vrai monde, mais qui parle de façon inventée, qui disent oui, des choses inventées par Benoît Côté, l'auteur.
C'est ça, exact, mais qui sont très plausibles. Ces dialogues sont très réussis. On voit qu'il a lu beaucoup sur ces personnes-là, comment ils s'expriment, parce que c'est plausible. Et moi, évidemment, parce que je suis une grande lectrice, le bout que j'ai préféré, c'est quand ils vont chez Michel Tremblay l'interviewer.
Est-ce qu'ils vont à Key West?
Non, il est sur le plateau, je pense qu'il est au Carré Saint-Louis, puis il raconte que lui, il a acheté cette maison-là. Il a toujours sa maison, c'est sûr, à Key West.
C'est vrai.
Mais il l'a acheté pour rien, qu'il dit, en 85. Mais maintenant, là, c'est devenu autre chose. Il creuse le sol très creux pour faire des sous-sols, pour vendre cette maison-là à des prix de fou. Mais lui, il dit, Michel Tremblay, il dit, écoute, ça n'a rien à voir, là. Si tu savais c'était quoi la vie avant les référendums, ici, on voulait un pays, les arts, c'était en pleine ébullition. Là, c'est pas ça du tout. Il dit, c'est pas que c'est plus difficile, mais c'est que les gens n'y croient plus. Alors là, lui, le héros, raconte, on est allé voir Michel Tremblay, même si on sait que la littérature et le théâtre québécois, c'est pas assez de mode. Mais on savait que lui, il avait quand même été important dans l'éveil culturel il y a 40-50 ans. Donc, il semble voir comme une personne âgée qui aurait un témoignage à faire. C'est très drôle. Mais lui, il n'a pas la langue dans sa poche, Michel Tremblay, puis il dit que ce désir-là n'existe plus. Il dit, je te le dis, c'est pas comparable, je cite. Crois-moi, les gens lisaient, s'intéressaient à ce qui se faisait. On n'était pas inondés par toutes les Netflix. Aujourd'hui, je suis sûre que s'il y a un jeune, quelque part au Québec, qui écrivait quelque chose, mettons, qui est l'équivalent des Belles-Sœurs, mais aujourd'hui, ben, je te garantis qu'il n'y aurait pas un théâtre pour l'accueillir, même pas une maison d'édition pour le publier. Mmh. Que là, on comprend que, effectivement, il a raison. L'ébullition des années 60, ça a été merveilleux, puis lui, il en est un acteur vraiment important. Et après, effectivement, après 1980, il y a vraiment eu une chute au niveau de la littérature québécoise. Là, maintenant, ça c'est autre chose, mais dans les années 80-90, ça a été très pauvre. Donc, à travers tout ça, lui, il est piraté, Benoît, parce qu'il travaille pour une grosse banque qui s'appelle HSBCQ. Et là, on l'espionne. Donc, il y a un très bon suspense à travers tout ça, un thriller, et on ne sait pas trop d'où vient la personne malsaine là-dedans, parce qu'on soupçonne beaucoup de gens. Il y a plein de rebondissements. C'est écrit aussi avec beaucoup d'humour, parce que quand on reconnaît les personnes, ben on se dit, j'espère que d'autres aussi ont le sens de l'humour, parce que les critiques, il y a vraiment des pointes, des satires. C'est très plaisant. Il y a plein de références culturelles, politiques, qu'on reconnaît, parce que lui, il y a une grande culture, Benoît Côté, l'auteur, le personnage aussi. Alors, il cite des chansons, des textes, mais des années, il y a longtemps, là. Alors, il écoute Harmonium, il écoute Jean-Pierre Ferland, c'est très intéressant. Puis quand on sait que lui, il y a une formation musicale, on comprend un petit peu aussi.
Mais j'imagine qu'il a fait aussi des recherches pour son roman.
Oui, sûrement. Puis aussi, il y a peut-être un nostalgique qui collectionne les disques de cette époque-là. Alors, il reprend aussi ces événements-là, transformés dans un contexte imaginaire. Le Québec est devenu une république. Hydro-Québec, ça n'existe plus. La Bibliothèque nationale non plus. C'est amusant de voir ce qu'il fait. Et surtout, ce qui est très drôle, c'est quand il va chez Richard Desjardins ou encore Jacques Parizeau. Ça, c'est très impressionnant, la visite. Il nous écrit tout le décor de la maison. Et il fait une large place à la poésie. Il cite des chansons, il cite des passages de la littérature russe parce qu'il est passionné par Tolstoï ou Gogol. Et on voit qu'il maîtrise cette matière-là. On voit qu'il y a des passages écrits en alphabet cyrillique, là. Alors, on ne comprend pas, mais on devine. Donc, une lecture très agréable, puis qui nous témoigne en même temps de qu'est-ce qu'on a fait de ça, les idéaux des années 60, ce à quoi on rêvait dans ce temps-là. Est-ce que tout ça est mort? Mm-hmm. Est-ce que c'est différent? Et puis, en fait, lui, on comprend qu'il est très idéaliste et qu'il était indépendantiste, l'auteur, Benoît Côté. Et à un moment donné, il retourne sur la terre familiale et là, vraiment, là, on y goûte, là, c'est vraiment pas beau. Ce qu'est devenu les fermes et les gaz de schiste et puis le lisier de porc et tout ça. Et on comprend qu'il se dit, bon, ben finalement, là, si le référendum n'avait pas passé là, en 95, moi, j'aurais-tu fait de la musique, c'est vrai, j'aimais ça, la musique, puis j'aimais écrire. Ah, peut-être j'aurais écrit un livre sur le Québec devenu un pays. Fait que là, on est encore dans une mise en abîme de Benoît Côté autre, qui n'est pas celui qui est maintenant. Alors, ouais. Tout ça est peut-être mêlant pour quelqu'un qui n'a pas lu le livre, mais c'est vraiment amusant et c'est crédible. Tout ce qu'il raconte, par hasard, il va rencontrer Vladimir Poutine à Montréal dans un événement et il lui parle de Vladimir Poutine. Ça, c'était pas prévisible, évidemment, quand il a écrit le livre. La présence des Russes est très, très forte dans ce livre-là, puisqu'il négocie avec des Russes tout le temps. Donc, par hasard aussi, il y a question de Jacques Parizeau, comme on sort un documentaire sur Jacques Parizeau présentement. Fait que je trouvais que c'était tout à fait d'actualité de lire ce livre-là. Malgré le recul, puis malgré la fantaisie du livre, c'est une lecture qui fait réfléchir et puis qui témoigne, je pense, de l'amour du pays, de la langue et de la culture de la part de Benoît Côté, l'auteur.
À partir d'une prémisse, ça a donné quelque chose de très palpitant, rigolo, enrichissant. Et je serais curieuse de savoir qu'est-ce que les personnalités publiques pensent des personnages qu'ils deviennent dans ce roman de Benoît Côté.
Oui, parce qu'ils ne sont pas tous morts, ceux qui citent dans le livre.
Mais non.
Alors, je ne sais pas s'ils ont eu un vent de ce qui s'était dit, mais il y a des fois qui, bon, vraiment, c'est comique, là. Alors, un très beau livre que j'invite tous à aller feuilleter.
Ça 406 pages, Anne-Marie, quand même?
406 pages, mais ça se lit tout seul. Moi aussi, je l'avais depuis un moment, puis je me disais, bon, quand est-ce que je vais trouver le temps? Et c'est la tempête de neige qui m'a permis de m'asseoir.
Ah,
puis
oui.
Et j'ai lu ça en deux jours. C'est
j'allais
vraiment,
dire, vive les tempêtes de neige, vive les grands froids aussi qui font en sorte qu'on reste à l'intérieur et qu'on lit sans se dire, oh, il faudrait bien que j'aille prendre l'air.
Voilà,
merci beaucoup, Anne-Marie. Passez une belle semaine. Puis, je rappelle le titre, Vie parallèle au pluriel, aux éditions Boréal. Et c'est Benoît Côté qu'on peut voir aux côtés de Justin Laramé de ce temps-ci dans Rondelet, une pièce documentaire formidable selon la critique que j'ai bien hâte de voir. Et vous nous avez donné, la plupart du temps, vous donnez envie de lire ce dont vous parlez. Là, Mathieu avait l'air complètement intéressé.
Ben oui.
Le mot est faible.
C'est très intéressant. Je l'invite à aller feuilleter ça à un moment donné.
D'accord. Merci beaucoup. À bientôt.
Au revoir.